Merci beaucoup, Eric, pour cette présidence. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et Michel vous salue bien. Elle donc donne le message ce matin à l'armée du salut à Tramelan. J'aimerais vous parler de quelques facettes de la personnalité de Dieu. Pourquoi? Eh bien, nous trouvons la réponse dans Jérémie 9, 22 et 23 que je vous lis. L'Éternel dit ceci: que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance. Que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci: avoir l'intelligence de me connaître. Moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir. L'Éternel le déclare. Dieu a du plaisir à ce qu'on le connaisse. Le connaître, pourquoi? Pour lui ressembler et pour le faire connaître. Alors, tout cela est possible parce qu'il nous a créés à sa ressemblance. Il est la vie, il est vivant et il nous a donné d'être vivant. Il a une volonté et il nous a donné cette volonté. Il est intelligent, il nous a donné l'intelligence. Il a des émotions et que nous ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il voit et il nous a donné des yeux. Il entend, il nous a donné des oreilles. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des végétaux, nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu. Je vais vous donner beaucoup de versets ce matin et j'aimerais pas encombrer cela avec toutes les références. Mais vous pouvez photographier mes notes par la suite si vous le désirez, ou on peut vous les envoyer. Si vous les désirez, il n'y a pas de souci à ce sujet-là. Alors, premièrement, le connaître. Pour le connaître, Dieu se présente lui-même et je vous invite en fait à continuer un peu le temps de prière parce que je vais juste prier trois, quatre mots et puis vous lire environ 11 versets où Dieu se révèle à nous. On va pas tout retenir, mais peut-être qu'il y a une, deux, trois choses qui vont vous permettre de mieux le connaître et puis vivre cela durant la semaine qui vient. Seigneur, viens te faire connaître à nous. L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la millième génération. Je pardonne le crime, la faute, le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême, puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par les présents. L'Éternel intervient pour redresser les torts et il défend les droits de tous les opprimés. L'Éternel est plein de patience et débordant d'amour, il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Car voici ce que dit le Dieu très élevé, qui demeure éternellement. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie et donner à l'esprit abattu la vie et relever les hommes câblés. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté, la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Car celui qui t'a faite, c'est ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Celui que l'on appelle le Dieu du monde entier. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance, la magnificence et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi. Splendeur et majesté rayonnent de son être, et puissance et beauté ornent son sanctuaire. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. L'Éternel est sublime. Amen. Donc Dieu est amour. Dieu a un amour personnalisé pour chacun de nous, un amour concret qui se manifeste dans le fait de l'intimité qu'il cherche avec nous. Dieu aime habiter chez nous et en nous. Bien sûr, l'univers entier ne peut le contenir, et pourtant Dieu aime focaliser sa présence à des endroits précis. Par exemple, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Pousse des cris de joie, communauté de Sion, car je viens habiter chez toi, l'Éternel le déclare. Je ne sais pas si vous avez déménagé récemment ou acheté une nouvelle maison, mais en tout cas, quand on l'invite, sérieusement, il vient. Que se passerait-il si Jésus habitait physiquement avec nous la semaine prochaine? En tout cas, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, sous-entendu peut-être parce que je ne vais pas habiter avec vous seulement, mais en vous, par mon esprit. Vous êtes mes disciples, vous êtes mon corps, vous êtes mes soldats, vous êtes mes athlètes. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons notre domicile chez lui. Et pour terminer, conclure ce premier point, je vous lis Osée 6, 6, car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Il y a des théologiens qui se glorifient un petit peu en disant le Dieu tout autre. Alors si on veut parler de sa grandeur, son amour, etc., ses caractéristiques, sa puissance qui nous dépasse, on peut comprendre cette expression. Mais la Bible ne nous présente pas le Dieu tout autre. La Bible nous présente un Père. La Bible nous dit, tu peux te glorifier de me connaître et j'ai un grand plaisir à ce que tu me connaisses. Il y a des mystères qui sont des vrais mystères, mais quand Dieu se révèle à nous, quand Dieu nous aide à le connaître, à le comprendre, à l'aimer, il n'est pas tout autre, mais il est intime. Il est intime, il est être intime, il est amour, il nous a créé pour cette relation intime qui commence déjà là et qui se poursuivra dans l'éternité. Alors, deuxième point, pour lui ressembler, laisse-moi me transformer à ton image. Nous tous qui le contemplons, nous sommes transformés, nous sommes comme bronzés, n'est-ce pas? Le soleil nous bronze, mais le Seigneur nous dit, quand tu me contemples, je te transforme à ma ressemblance, à mon image. Savoir donc pour le ressembler ce qu'il aime le plus. Qu'est-ce que Dieu aime le plus? Ben par Jean, il s'exprime, je pense, en disant « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Il y a différents degrés de joie en Dieu. Mais il dit « Ma plus grande joie, et on le verra encore par d'autres versets après, ma plus grande joie, c'est quand tu marches dans la vérité. » Le Père est appelé Dieu de vérité, dans Ésaïe. Jésus a dit « Je suis la vérité. » Et le Saint-Esprit, dans Jean 14, est appelé « Esprit de vérité ». La vérité est le fondement du christianisme. Prendre position quand cela demande du courage, la droiture envers notre famille, nos époux, épouses, enfants. Jésus, notre grand frère, nous dit « Je suis la vérité ». Il y a parfois une tentation d'exagérer, n'est-ce pas? Il y a parfois une tentation d'avoir une espèce parfois de culture religieuse qui est plus tournée vers les fables que vers la vérité. Et parfois, on ne se rend pas assez compte, je le dis aussi à moi-même, on ne se rend pas assez compte combien la vérité est un élément fondamental. Que Dieu dit, c'est pas seulement que je dis la vérité, mais je suis la vérité. Croire n'a rien à voir avec un suicide intellectuel. Jésus s'est exclamé, « Ô homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. » Jésus dit, « Croire, c'est intelligent. Être intelligent, c'est croire ce que les prophètes ont annoncé. Croire en un Dieu véridique, c'est l'honorer. » Quand un enfant demande à un enfant, « Comment t'appelles-tu ? » Il dit, « Je m'appelle Sébastien. » On ne va pas lui dire, oh, tu es un menteur, moi je pense que tu t'appelles Charles. Quand un enfant nous dit qu'il s'appelle Sébastien, on l'appellera Sébastien. J'étais interviewé à Radio Jura Bernois une fois, et la journaliste, au bout d'un moment, m'a dit, mais tout ça, c'est, vous savez pas, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez pas prouver ces choses. À l'école, c'est le savoir, mais pour ce qui est de la foi, c'est autre chose. Et je lui ai dit, voyez-vous, vous m'appelez Monsieur Brugnoli depuis le début de l'interview et vous n'avez jamais vu mon passeport. Et si vous croyez que je m'appelle Monsieur Brugnoli, à combien plus forte raison je peux faire confiance à Dieu et à sa parole. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, 1 Jean 5, 10. Dieu est l'être le plus intelligent de l'univers. Opposer intelligence et foi n'est pas un message très glorieux. Si quelqu'un ne croit pas que New York existe, est-ce que New York va disparaître? Non. Il va juste montrer sa stupidité. Peut-être qu'il n'est jamais allé à New York, mais je pense qu'il a reçu suffisamment de preuves, d'images et de reportages pour savoir que cette ville existe. Si un juge dit, je te condamne à 5 ans de prison, et la personne éclate de rire en disant, mais monsieur le juge, moi je ne crois pas à la prison. Ça change rien, n'est-ce pas? Ça ne change absolument rien. Il va aller en prison, qu'il croit ou qu'il croit pas à la prison. C'est comme notre naissance. On n'a pas choisi de naître, n'est-ce pas? Et on ne peut rien choisir. Je veux dire, c'est pas parce qu'on croit ou qu'on ne croit pas à l'éternité que les choses vont changer. La foi que Dieu nous demande, c'est croire la vérité basée sur la réalité. Il y avait cette émission Les Petits Loups, je sais pas si ça continue, moi il y a 20 ans que j'ai plus écouté la radio. Mais au moins, enfin, de temps en temps, 10 secondes quand elle s'allume toute seule. Mais il y avait cette émission des petits loups où les enfants pouvaient poser des questions. Bernard Pichon, voilà. Et il y a un petit garçon de 6 ans qui a dit quelque chose du genre, c'est très difficile d'être chrétien parce qu'on doit croire à des choses qui n'existent pas. Voyez comment il avait cerné le christianisme. Le Père Noël, Jésus, tout ça, les œufs à Pâques, le chocolat, la résurrection, c'est très difficile d'être chrétien parce qu'on doit croire à des choses qui n'existent pas. Quelle drôle d'éducation il avait reçue, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est que Dieu s'est fait homme pour nous délivrer du mal qui ronge nos vies, du malin qui est un ennemi caché mais implacable, et de la perdition qui attend celui ou celle qui refuse son pardon. Le croire, c'est honorer la réalité de faits authentiques et marcher dans la vérité comme Dieu lui-même marche dans la vérité. Mon fils, quand tu parleras avec droiture, tout mon être exultera. Quand tu parles avec droiture, Dieu dit, elle me ressemble. Il me ressemble. Marcher et parler dans la vérité, rendons Dieu heureux dans la semaine qui vient et dans nos vies en général. On a vu un aspect, on aurait pu voir tellement d'autres, n'est-ce pas, de ce que Dieu aime. Maintenant, quelques paroles sur ce qu'il déteste. Les pharisiens et les enseignants de la loi qui ont refusé de se faire baptiser par lui ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. Une autre version dit, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. La Bible nous dit que nous avons été créés en Jésus-Christ. Tout a été fait par lui, pour lui. Par lui, en lui et pour lui, n'est-ce pas? Est-ce qu'un seul être humain a été créé pour autre chose que pour Jésus? Non. La Bible dit, vous avez été créés par lui et pour lui. Pécher, c'est manquer le but, c'est rater sa destinée, c'est passer à côté de l'appel de Dieu. Dieu voulait sauver ces pharisiens, ces érudits lettrés, mais ils ont refusé. Le salut n'est donc pas irrésistible et la volonté de Dieu n'est que trop rarement faite sur terre. L'homme a le pouvoir de gâcher sa destinée. Ô homme obstiné, dit Étienne avant d'être lapidé, qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Oui, il est possible de résister à l'Esprit Saint parce que nous avons reçu cette liberté. Et Ézéchiel dit, vous m'avez profané, Dieu dit au travers d'Ézéchiel, vous m'avez profané devant mon peuple pour quelques poignées d'orge en donnant la mort à des gens qui n'ont pas à mourir. Étonnant. Des gens qui étaient morts et Dieu ne voulait pas qu'ils meurent. Et puis il y a un verset qui m'a beaucoup troublé. Quand il est parlé des passereaux, des moineaux, pas un seul ne tombe à terre sans Dieu. Et parce que le texte original dit cela, les traducteurs ont voulu mettre quelque chose en français surtout, n'est-ce pas? Alors, il y en a qui ont mis malheureusement, aucun d'eux ne tombe à terre sans la volonté de votre Père. D'autres ont dit sans que Dieu ne le sache. D'autres ont dit il n'en oublie aucun. Mais la Bible nous dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. C'est un ennemi de Dieu. Et je pense, entre autres, que Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare, bien qu'il savait qu'il allait le ressusciter, parce que peut-être qu'il a pleuré sur cet incroyable cataclysme, cette douleur invraisemblable, ces milliards de veuves, ces milliards d'orphelins, ces milliards, ces millions qui tombent à la guerre. Peut-être que Jésus, dans cette vision globale de l'humanité, a pleuré devant le tombeau de Lazare, comme il a pleuré devant Jérusalem, en disant « Combien de fois j'ai voulu vous rassembler, mais vous l'avez pas voulu. » Et puis, elle a dû prier aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment, n'est-ce pas? Alors, je crois qu'effectivement, quand un oiseau tombe à terre, Dieu est touché, notre Père est touché. Jésus dit même, il arrivera qu'on pense rendre un culte à Dieu en vous mettant à mort, comme une extrême, n'est-ce pas? En parlant d'Israël, il dit, à longueur de journée, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Dans Romains 10, imaginez le Dieu Tout-Puissant qui tend les mains dans cette espérance en disant, mais j'aimerais vivre une intimité. Il y a un passage même qui dit, si je trouve un juste à Jérusalem, aujourd'hui il n'y en a plus, hein, mais si je trouvais un juste, je pardonnerai à toute la ville. L'attitude de l'humanité si désobéissante l'étonne. Il n'a trouvé personne qui intercède, il s'en est étonné. J'aime dire que si on pouvait parler 3 minutes à Poutine ou à Trump et qu'ils nous écoutent sérieusement, je pense qu'on réfléchirait pas mal. On réfléchirait, mais qu'est-ce que je pourrais dire à Poutine et à Trump en 3 minutes? Mais c'est celui qui est bien au-dessus, c'est celui qui est roi des rois, seigneur des seigneurs, qui nous dit, mais viens dans ma présence. Avant tout, intercède pour toute l'humanité, prie pour tous les hommes. Et si on préparait pendant plusieurs semaines nos 3 minutes avec Poutine, combien est-ce qu'on devrait saisir l'occasion de l'intimité et de dire, puisque tu veux que ta volonté sur la terre soit faite au travers de ma prière aussi, pas seulement, mais aussi. Parce que je ne sais pas si je l'ai déjà dit, moi ça m'a frappé, j'ai lu ma Bible pendant 50 ans sans le voir. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Vous avez déjà remarqué ça? Voici comment vous devez prier. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est étonnant, n'est-ce pas? Parce qu'il nous a créé à son image et il a dit, tu peux être aussi petit que tu l'imagines, mais tu parles au Dieu de l'univers. Et je vais t'enseigner comment tu dois prier. J'aimerais avant toute chose que tu pries pour toute la planète, que tu pries pour tous les hommes, que tu pries pour toutes les nations, enfin, on pourrait, ou tous les peuples. Mais peut-être que tous les évangiles n'emploient pas ce mot devait, mais en tout cas, il y en a un qui emploie ce mot devait. Et moi, ça m'a frappé, ça m'a touché. Donc, c'est plus que 3 minutes à Poutine ou à Trump ou à, comment s'appelle notre présidente de confédération? Karine Keller-Souter, n'est-ce pas? Si elle nous offrait un café demain matin, et on pourrait parler avec elle cœur à cœur pendant 15 minutes. Je suis sûr que nos arrière-petits-enfants sauraient que, ah oui, j'ai une personne dans ma famille qui a parlé pendant 15 minutes avec la présidente de la Confédération. Eh bien, lorsque tu veux prier, si tu veux pas, je peux rien faire. Mais quand tu veux prier, va dans ta chambre, ferme ta porte. Et ton Père qui voit dans le secret, premièrement, il est là, que tu le sentes ou que tu le sentes pas, il est là, parce qu'il a dit qu'il était là. Ton Père est là et il va te récompenser. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas les récompenses, mais la Bible dit, si tu ne crois pas que Dieu récompense ceux qui le cherchent, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est dans Hébreux. Donc c'est bien de croire à toutes choses comme un cadeau de Dieu, mais c'est important de savoir qu'il aime aussi nous récompenser, nous encourager. L'attitude de l'humanité l'étonne. J'ai regardé partout, personne pour m'aider. Je me suis étonné, n'y a-t-il donc personne pour me prêter main forte? Mon bras m'a alors sauvé et mon indignation a été mon soutien. Ésaïe 63:5. Dieu dit, il n'y a personne pour me prêter main forte. J'en ai été indigné. Parce que je vous appelle fils et fille, je vous dis, ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont ceux-là qui sont ma mère, mon père, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Oui, je peux vous donner ce témoignage. En 1980, ça a changé ma vie. Quand j'ai compris que dans mon culte personnel, je pouvais influencer toute l'humanité, je pouvais prier pour une nation par jour. On peut prier de mille façons différentes, on est tous différents. Mais moi, j'ai commencé à prier pour un pays par jour et ça m'a tellement apporté dans l'amitié avec Dieu. Et chaque année, je lui dis, Seigneur, cette année, on va faire comment? Dieu, étonnez-vous-en, soyez-en horrifiés et consternés, l'Éternel le déclare. Car mon peuple a commis un double mal, il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. Jésus dit, mais soyez horrifiés et consternés. Si mon peuple ne me connaît pas, alors il va pas vivre cette intimité. Et il va pas me ressembler. Et il va pas me faire connaître. Mais j'ai écrit la Bible pour tous les peuples et tous les siècles pour qu'ils me connaissent, qu'ils collaborent avec moi. Jésus ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut très étonné de leur incrédulité. Pourtant, c'est Jésus qui a dit « Nul n'est reçu dans sa famille », n'est-ce pas? Mais malgré qu'il savait ça, il était quand même étonné. C'était incroyable. Sa puissance avait été limitée parce que ces gens étaient remplis d'incrédulité. Alors, un point peut-être un petit peu moins connu, toujours pour dans le point de lui ressembler. Dieu réfléchit, médite, soupèse ses propres décisions. Il est sensible et humble. Et c'est aussi pour ça qu'on peut chercher à l'imiter dans ce domaine. Suite au déluge, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il en offrit en holocauste. L'Éternel sentit une odeur agréable et dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre, je ne recommencerai plus à la détruire, à détruire tous les êtres vivants comme je viens de le faire. » Il a été touché, il a médité, il a pris une décision dans son cœur. Avec Abraham, l'Éternel se dit alors, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? » Dieu se pose une question en lui, mais il se dit, mais j'ai des tellement grands projets au travers d'Abraham. Il deviendra l'ancêtre d'une grande et puissante nation et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Et il décide de s'arrêter chez Abraham, avant d'éprouver une dernière fois Sodome et Gomorre. Et vous connaissez, Abraham, il n'avait pas la Bible, hein. Mais il avait une connaissance de Dieu, il a dit, Seigneur, peut-être qu'il y a 50 justes dans cette vallée. Est-ce que tu vas les détruire avec les autres? Vous connaissez l'histoire? 45, 30, 30, 20, 10. Et Dieu dit, ok, si je trouve 10 justes dans toute cette vallée, je les épargne. Vous connaissez l'histoire? Les anges sont arrivés à la porte, ils ont été accueillis par Lot. Et toute la population se réunit devant la porte. Pourquoi? Pour violer les anges et violer Lot. Comme examen, c'était pas génial, n'est-ce pas? Ils ont totalement échoué. Pour l'itinéraire de son peuple, c'est aussi intéressant, dans Exode 13. Quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Et Dieu avait raison. Quand ils ont envoyé les espions, les 12 espions, Ils sont revenus en disant, c'est des géants, on est des sauterelles. On peut avoir aucune confiance en Dieu. Peut-être que le diable a aussi dit à ce moment-là, Dieu a-t-il réellement dit que vous alliez conquérir Canaan, un pays de lait et de miel? Mais non! Retourner en Égypte. Enfin, ça, c'est pas dit dans la Bible, hein. Mais quand Josué et Caleb ont dit, mais croyons à la parole de Dieu. On va les vaincre. Ce sera notre pays. C'est pour ça qu'on a fait tout ce chemin. Et puis Dieu nous a délivrés miraculeusement de Pharaon. Et quelle est la réaction du peuple? Ils prennent des pierres pour lapider Josué et Caleb. Et ils disent, nommons un chef et retournons en Égypte. Vous voyez? Dieu dit encore, je me proposais alors de répandre ma fureur sur eux et d'assouvir ma colère contre eux en Égypte. Donc ça, c'est déjà avant. Mais j'ai agi par égard pour ma renommée, pour que je ne sois pas méprisé, car je m'étais fait connaître à eux sous leurs yeux, sous les yeux de ces nations, dans le but de les faire sortir d'Égypte. Je les ai donc fait sortir d'Égypte et les ai conduits au désert. Je crois que ces textes nous montrent l'humilité de Dieu, Dieu qui nous ouvre son cœur avec la tendresse d'un père, image du Dieu invisible. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur, et celui qui m'a vu a vu le Père. Voici ton roi vient à toi, plein de douceur. Matthieu 21, verset 5. Donc avant de nous demander d'être vrai, authentique, ouvert, notre Créateur nous montre l'exemple. Il met sa parole en pratique. Finalement, connaître Dieu pour le faire connaître, une très courte conclusion. Écoutez ceci, c'est étonnant dans Matthieu 12. Voici mon serviteur, ma servante, dit Dieu, celui, celle que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il agira jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. Donc Dieu aime que nous consacrions notre vie pour que tous les peuples mettent leur espoir en lui. Et peut-être avant de terminer la prière, j'ai pensé à deux choses en préparant ce message. Premièrement, on a reçu 120 000 évangiles gratuits d'Irlande. On a fait tout un projet, on voulait, donc la Poste a distribué dans toutes les boîtes aux lettres du Jura bernois l'évangile de Jean il y a quelques mois. Et puis il nous en restait assez, on a fait toutes les Franches-Montagnes. Il y en a 20 000 qui sont allés au Valais et puis 60 000 qui sont partis pour l'Afrique. Alors, j'en ai ramené, je ne sais pas, 80 peut-être, ils sont absolument gratuits, bien sûr, mais il y a un petit devoir. Vous pouvez en prendre 1, 2, 5, 10, 15, mais je dirais que dans le mois qui vient, vos voisins, vos collègues, vos amis, vos parents, ceux qui ne connaissent pas l'évangile de Jean, dites-leur, mais c'est un petit bouquin qui a changé ma vie, c'est un message qui a changé ma vie. Je te le donne. Alors voilà, vous vous servez tout à fait librement, avec un petit devoir, ceux que je prends, je les distribue. Et puis ça aussi c'est gratuit, comment prier pour notre planète, vous avez déjà donné des messages là-dessus, hein. Premier chapitre sur comment prier pour les non-chrétiens, et une autre fois je pourrais vous apporter la partie B, je vous avais apporté la partie A du premier chapitre. Deuxième chapitre c'est comment prier pour les nations, et troisième c'est 366 sujets de prière pour bénir toute la planète. Absolument gratuit, mais si vous le prenez, lisez-le, relisez-le, et peut-être mettez en pratique, mais comme le Seigneur vous conduit. On est tous différents, et le Seigneur nous conduit personnellement, n'est-ce pas? Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions parce que ton grand désir, c'est de te faire connaître. Et nous te prions, Seigneur, que nous tous, dans cette semaine qui vient, nous puissions mieux te connaître. Nous puissions avoir ces rendez-vous divins, fermer la porte, le smartphone, la télé, la radio, les journaux. Et toi, tu nous dis, Père, que tu es là dans le secret et que tu nous le rendras. Ce ne sera pas un moment perdu, ce sera un moment précieux et intime. Seigneur, nous aimerions aussi que tu continues de nous transformer à ton image. Et nous aimerions te demander des rendez-vous divins dans la semaine qui vient, dans les mois qui viennent, des rendez-vous divins où nous pouvons te faire connaître autour de nous. Merci Père, merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit. Amen.
Jésus.